Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. La radio dispose d'un web chat, donc utilisez votre navigateur web et rendez-vous sur le site de la radio, causecommune.fm, cliquez sur chat et retrouvez-nous ainsi sur le salon dédié à l'émission. La radio dispose également d'une application Cause Commune pour téléphone mobile. Nous sommes mardi 17 septembre 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Alors le site web de l'April, c'est april.org et vous pouvez trouver déjà une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Et également les moyens de nous contacter. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors maintenant, le programme du jour. Nous commencerons par la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » de Marie-Odile Morandi qui portera sur le thème de « L'état de droit à l'état de surveillance ». D'ici 10-15 minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur l'obsolescence programmée et le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. En fin d'émission, nous aurons la chronique « Pépites libres » de Jean-Christophe Becquet qui portera sur le concours mondial de photos libre « Wiki Loves Monument ». À la réalisation de l'émission, Étienne Gonu. Bonjour Étienne.
Salut Fred.
Alors nous allons vous proposer un petit quiz comme à chaque émission. Je vous donnerai les réponses en fin d'émission, mais vous pouvez évidemment proposer vos réponses soit sur le salon web de la radio, donc je rappelle sur causecommune.fm, soit sur les différents réseaux sociaux que nous fréquentons. Alors les deux questions. La première, lors de l'émission du 10 septembre 2019, donc la semaine dernière, nous avons évoqué une nouvelle école d'informatique conçue avant tout par des femmes et qui s'adresse aux femmes post-bac. Quel est le nom de cette école ? Deuxième question, on va parler dans l'émission du jour d'économie circulaire, de durée de vie, de réparabilité. Nous vous avions présenté il y a quelques mois des projets libres visant à rendre le déterminant mobile non seulement plus libre, mais aussi plus durable. Est-ce que vous pourriez citer un ou deux de ces projets ? Tout de suite, place au premier sujet. Les choix, voire les coups de cœur de Marie-Odile Morandi, qui mettent en valeur deux ou trois transcriptions dont elle conseille la lecture. C'est la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture », donc de Marie-Odile Morandi, animatrice du groupe de travail « Transcription de l'April ». Bonjour Marie-Odile.
Bonjour à tous.
Alors, quel est ton coup de cœur aujourd'hui ?
Effectivement, ce mois-ci, c'est véritablement un coup de cœur. Il s'agit d'une conférence donnée à l'Ubuntu Party qui a eu lieu à Paris au mois de mai dernier, que j'avais écouté en partie parce que c'est quand même formidable ce réseau des réseaux qui nous permet de suivre en direct des conférences à distance. Et je m'étais dit, dès que c'est en ligne, c'est absolument à transcrire. Il s'agit de l'intervention de Asma Mala, maître de conférence à Sciences Po, qui dure une cinquantaine de minutes et est intitulée « De l'état de droit à l'état de surveillance ». Asma Mala nous explique que l'état de droit repose sur trois éléments, la loi, le contrôle de la loi, donc la surveillance, et la bienveillance. Concernant la loi, elle estime que nous sommes très bons en France. Elle parle de logorée juridique, puisqu'à chaque événement particulier, on a ce réflexe, mot qu'elle préfère au mot dérive, de pousser une loi supplémentaire. Loi antiterroriste, loi anti-fake news, loi anti-casseur. Le contrôle est exercé par l'État et par ce qu'elle appelle les méta-plateformes que sont les GAFAM. Au sujet de la bienveillance, elle se demande si l'État est toujours en train de maintenir un état de droit pour le bien commun, pour l'intérêt général, ou si l'État, c'est-à-dire l'ensemble des institutions, l'ensemble des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, est en train de jouer sa survie au service de son propre intérêt, parce qu'elle trouve ces lois tellement vagues qu'elles pourront faire dire et faire faire n'importe quoi à n'importe qui si elles sont mal manipulées. Le constat est établi qu'aujourd'hui, la demande de la part des citoyens, c'est-à-dire nous, est une demande sécuritaire. Elle parle de discours obsessionnel. On vit pour la sécurité. La sécurité n'est plus le moyen d'assurer la vie paisible de tous, mais devient l'objectif. Asma Mala constate une différence fondamentale entre l'État et les méta-plateformes. Ces dernières portent une vision du monde, une vision de l'humanité, et elles savent où elles veulent aller. Grâce à leurs fonds faramineux, elles financent la recherche fondamentale, les expérimentations, les développements, par exemple, sur l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, les meilleurs chercheurs vont chez Facebook et chez Google offrir leurs compétences. La recherche fondamentale ne se fait quasiment plus dans les universités, dans les centres de recherche, ce qui pose d'autres interrogations que je vous laisse découvrir. Les questions fusent. Est-ce qu'on partage cette vision du monde? Est-ce que c'est le monde que nous souhaitons, vers lequel nous voulons aller? Est-ce que collectivement, donc via l'État, il nous est donné la possibilité d'en débattre? Ces méta-plateformes arrivent à un moment d'affaiblissement de l'État social et disent « Nous allons préempter un certain nombre de fonctions sociales qui initialement étaient entre guillemets gratuites et collectives, comme l'éducation, la santé. » Et que se passe-t-il? L'État cherche à se transformer en État-plateforme, à se mettre au niveau de ces méta-plateformes dont il accepte les règles et la concurrence qu'elles vont lui faire. La fonction sociale de l'État va disparaître, ses prérogatives seront de plus en plus sécuritaires, de moins en moins sociales. Donc la collusion entre ces plateformes et l'économie numérique et l'État fait apparaître une nouvelle gouvernance mondiale. Elle rappelle un discours du président de la République dans lequel il a lancé le concept de co-régulation entre État et plateforme avec une répartition des tâches laissant ce qu'elle appelle le punitif à l'État. En effet, si tout d'un coup les plateformes entraient dans une logique punitive, on pourrait ne plus les utiliser de façon aussi massive, parce qu'on aurait alors peur, ce qui ne ferait pas leur affaire, parce que tout le modèle économique est basé sur notre désir de nous exposer. L'État a aussi besoin de ces plateformes, parce que c'est là où il va chercher nos données personnelles, d'où la surveillance qui est bien organisée sur la base de nos données personnelles. Sa conclusion est claire, le contrat social qui était liberté contre sécurité ou sécurité contre liberté est devenu liberté contre sécurité contre vie privée.
D'accord, donc selon toi, c'est ton coup de cœur et cette transcription de cette conférence doit être lue et relue.
Tout à fait. Je me permets de vous inciter à écouter cette conférence, à lire ou relire sa transcription. J'ai trouvé la réflexion de Asma Mala personnelle et pertinente, donc à partager. Cela nous concerne tous. Elle nous conseille de nous documenter, de nous renseigner, de porter un regard critique. Pour elle, à l'école, on ne doit pas se limiter à l'étude du code. Il faut une formation à l'éthique, à l'économie numérique, car il s'agit de comprendre les enjeux d'autonomie individuelle ou collective, qui ne sont absolument pas des enjeux de codage, qui ne sont pas des enjeux d'informaticien. Ce sont des enjeux de vivre ensemble, de vision du monde et fondamentalement des enjeux de démocratie. Je vais répéter l'intitulé de cette conférence, de l'état de droit à l'état de surveillance, et vous trouverez le lien vers la transcription sur le site de l'April, sur la page de référence concernant l'émission d'aujourd'hui.
Donc effectivement sur april.org. Est-ce que tu voulais mentionner autre chose, une autre transcription ?
Tout à fait. Comme dit précédemment, on en revient toujours à la formation de base et à ce qui est enseigné ou devrait être enseigné dans les écoles. Peut-être diront certains que c'est quelque chose de convenu en ce mois de septembre, traditionnellement mois de rentrée scolaire, mais je voulais rappeler les transcriptions de diverses conférences tenues par Richard Stallman en France et en français depuis 2013, dans lesquelles il répète inlassablement que les écoles devraient utiliser exclusivement du logiciel libre. Là aussi, vous trouverez les liens concernant ces transcriptions à l'onglet référence sur la page consacrée à l'émission d'aujourd'hui. Et vous pourrez relire les explications données par Richard Stallman dans chacune de ses conférences. D'autre part, pour approfondir le sujet, je tiens à rappeler la transcription de la chronique de Véronique Bonnet dans l'émission Libre à vous du 9 avril de cette année. Elle montre que Richard Stallman, dans ses arguments, commence toujours par ce qui est le moins important, l'argument monétaire, pour arriver à ce qui est le plus essentiel, l'éducation morale, l'habitude d'aider les autres. Je vais faire mienne les paroles prononcées par le lieutenant-colonel Stéphane Dumont de la Gendarmerie nationale dans l'émission Libre à vous du 3 septembre. J'ouvre des guillemets, j'insiste, je martèle, mais la marteau-thérapie a parfois du bon. Je pense donc qu'il est nécessaire de rappeler inlassablement les fondamentaux concernant l'enseignement de l'informatique au sein de nos établissements, d'autant plus que de nouveaux programmes doivent être mis en place au cours de cette année scolaire, en particulier au lycée. Souhaitons que les préconisations de Richard Stallman concernant l'utilisation du logiciel libre de la maternelle à l'université soient respectées et sincèrement mises en œuvre. Voilà pour la chronique, les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture de ce mois de septembre 2019.
Écoute, Marie-Odile, merci pour ces transcriptions. J'en profite pour signaler, tu as parlé en introduction de l'Ubuntu Party à Paris du mois de mai dernier, donc 2019. La prochaine Ubuntu Party aura lieu donc les 16 et 17 novembre 2019 à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et comme tu viens de parler de Richard Stallman qui est dans l'actualité, je signale que je ferai un petit point sur l'actualité en fin d'émission concernant Richard Stallman. Écoute, merci Marie-Odile. On se retrouve le mois prochain et je te souhaite de passer une belle fin de journée.
Merci à vous toutes et toutes aussi. Bonne soirée.
Alors, nous allons passer une pause musicale. Nous allons écouter Beyond the Door par les journées musicales de Zik Libre en Bib. Et on se retrouve juste après.
Cause commune.
I'm alone, still broken. You close the door, cries open. My friends are gone. You were the one with all your fears hidden in my tears. Let me go, go. Your memory still lives in me. Just remember that together we.
venons d'écouter Beyond the Door par les journées musicales de Zik Libre en bib, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Et pour en savoir plus sur Zik Libre en bib, vous pouvez écouter l'émission du 9 juillet 2019. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons passer maintenant au sujet suivant. Alors, nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui a été enregistré ce matin, qui porte sur l'obsolescence programmée, le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, avec nos invités Adèle Chasson de Halte à l'obsolescence programmée et Frédéric Bordage de greenit.fr.
Bienvenue, nous allons aujourd'hui parler dans ce sujet long du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et pour une économie circulaire. Et j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui avec moi, normalement au téléphone, Frédéric Bordage, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Frédéric, et Adèle Chasson d'Obsolescence Programmée.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Avec plaisir. Alors, avant de vous demander de vous présenter, je vais peut-être juste expliquer pourquoi finalement nous faisons cette émission aujourd'hui, quel est le contexte. Contexte de cette émission. Alors, comme je vous disais, donc, il y a un projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et pour l'économie circulaire. Ce projet de loi, il fait partie de ces quelques lois qui sont finalement, qui sont annoncées comme une des conséquences, on va dire, de ce qui a été le grand débat organisé par le président de la République plus tôt cette année. Et je vais vous lire un extrait de son exposé des motifs, donc qui exprime sa raison d'être, la raison d'être de ce texte. Et on peut ainsi lire que cette transition vers une économie circulaire est garante d'une consommation sobre des ressources non renouvelables, où les déchets deviennent des ressources, où les produits ont une durée de vie plus longue, où il est mis fin au gaspillage et où 100% des plastiques sont recyclés. Donc on voit quand même une ambition très forte. On va voir si le texte en donne les moyens. On en parle aujourd'hui. Alors là, l'émission, pour tout vous dire, on est en train de l'enregistrer pour des questions de disponibilité de nos intervenants. Et pour cause, effectivement, à l'heure habituelle, l'heure de la diffusion de l'émission, à 15h30, cet après-midi, donc, le projet de loi sera discuté en commission du développement durable au Sénat, où le texte est introduit pour la première fois. Et puis, les 24, 25, 26 septembre, là, auront lieu les discussions en séance publique, voilà, donc les plus gros débats. Et plus tard, ensuite, dans l'année, les débats auront lieu à l'Assemblée nationale. Alors peut-être avant de rentrer, donc il y a un contexte aussi plus général, hein, on sait très bien, voilà, en termes de dérèglement climatique, on sait très bien qu'il y a une problématique de gestion des déchets, de consommation de plus en plus importante en termes d'énergie par ce qu'on appelle le numérique maintenant, hein, qui est devenu un peu à terme à lui-même. Je vais peut-être juste citer très rapidement un projet, le projet Shift qui veut dire transition en anglais. Et je pense qu'on peut directement évoquer ici ce qu'il amène des données, des chiffres très intéressants. Et il a pour ambition, alors moi, on va vous mettre le lien sur le site, hein, il fait donc 88 pages, comme je disais, et une lecture utile. Alors, j'ai pas du tout prétention de pouvoir résumer ce document, mais en gros, il appelle à une consommation plus sobre, une sobriété numérique. Sobriété énergétique, et surtout il fait ressortir la nécessité d'allonger la durée de vie de nos équipements informatiques, notamment de nos terminaux mobiles, car ce qu'il fait ressortir, c'est que c'est vraiment la production et le traitement ensuite des déchets qui consomment de manière significative le plus de ressources. Donc il y a un véritable enjeu d'allonger les durées de vie de nos terminaux, et c'est un peu donc un enjeu important, un enjeu extrêmement important. Et surtout, ce qu'on voit, autre chiffre déterminant que fait ressortir ce projet, c'est qu'il y a une hausse tous les ans de 9% de consommation supplémentaire d'énergie pour le numérique en général. Donc la question qu'on peut se poser, est-ce que finalement ce texte est à la hauteur des ambitions? Alors malheureusement, ce qu'on peut constater pour le moment, c'est l'absence des questions liées à l'informatique, au numérique en général dans ce texte. Et donc, c'est toute l'ambition de nos différentes structures, Green IT, Halte Obsolescence Programmée, qui ont une vocation historique sur ces sujets, et puis l'April, là, qui souhaite aussi s'engager pour lutter contre l'obsolescence logicielle. Et donc là, il y a un véritable enjeu pour amener ce sujet dans le débat. Alors, avant d'entrer dans ce fond-là, je pense qu'il peut être intéressant, voilà, justement, d'avoir un petit retour sur votre expérience, sur la raison d'être de vos structures, sur ce que vous faites. Je vais peut-être proposer à Frédéric Bordage de vous présenter. Alors Frédéric Bordage, vous pouvez me corriger. Vous êtes donc un expert en numérique responsable et puis fondateur donc de greenit.fr. Est-ce que vous pouvez nous vous présenter et présenter votre structure?
Oui, tout à fait. Donc, je suis un expert indépendant donc sur ces sujets depuis à peu près 15 ans. Et il y a 15 ans, face à la non-action en fait de la société sur ces sujets, on a lancé greenIT.fr, qui est la communauté des acteurs du numérique responsable dans les pays francophones en fait. Et voilà, et donc on a des actions concrètes. Par exemple, on publiera dans 3 semaines un rapport sur l'empreinte environnementale du numérique mondial. C'est la plus grosse étude jamais réalisée au niveau mondial sur l'empreinte du numérique, ses sources, etc. Qui va conforter d'ailleurs l'étude du Shift. Et d'ailleurs, juste pour mettre en perspective historique, l'étude du Shift, ça fait 15 ans en fait qu'on sait tout ce qui est dedans et qu'on le dit en fait hein, concrètement. Donc cette étude a défrayé la chronique et c'est bien parce que ça fait avancer le sujet, mais c'est pas du tout une découverte. Ça fait 15 ans qu'on sait que la fabrication des équipements numériques est la principale source d'empreinte environnementale et qu'il faut absolument en fabriquer moins et allonger la durée de vie des équipements existants.
Super. Adèle, est-ce que peut-être vous pouvez nous présenter un peu votre structure et puis qui vous êtes?
Oui, alors je suis Adèle Chasson, donc je suis chargée de mission à l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Et l'association HOP donc, a pour objectif, elle a été créée en 2015, elle a pour objectif de fédérer le plus de citoyens possible pour influencer à la fois les lois et les industriels pour aller vers des produits plus durables et réparables. Donc on fait beaucoup de sensibilisation du grand public, on fédère une communauté d'environ 40 000 personnes aujourd'hui qui affirment leur souhait de lutter contre l'obsolescence programmée et d'avoir des produits qui durent. On fait aussi du plaidoyer auprès des pouvoirs publics, notamment dans le cadre de la loi, comme on va y revenir. Et on accompagne aussi les entreprises qui souhaitent changer de modèle et faire partie de cette économie-là des produits plus durables.
Vous parliez d'obsolescence programmée. C'est vrai que c'est un terme qu'on entend très souvent. Il est assez central dans le projet de loi là, qui va être étudié. Peut-être qu'il pourrait être intéressant et d'avoir d'autres retours sur déjà cette notion d'obsolescence. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on parle d'obsolescence programmée? Est-ce qu'il y a forcément une volonté derrière? Est-ce que ça peut être systémique peut-être aussi? Est-ce que vous pouvez nous donner votre lecture sur cette notion?
Oui, alors l'obsolescence programmée, elle se définit comme l'ensemble des techniques par lesquelles un fabricant d'un produit réduit délibérément la durée de vie de son produit dans le but de pousser le consommateur à un nouvel achat. Donc ça peut être un composant qui est irréparable. Il y a 3 types d'obsolescence principales qu'on distingue. L'obsolescence technique, l'obsolescence logicielle dont on va plutôt parler et l'obsolescence esthétique. L'obsolescence technique, c'est très classique. C'est quand, par exemple, vous avez une pièce d'un produit qui fonctionne plus, qui est irréparable ou alors vous pouvez pas trouver la pièce détachée. Donc là, vous avez aucun moyen de le réparer. L'obsolescence esthétique ou culturelle, c'est plutôt quand vous allez avoir des publicités, du marketing qui vous incite à renouveler vos produits plus tôt que nécessaire, alors que par exemple vous n'avez pas même pas de produit en panne, mais vous voulez un smartphone avec un écran plus grand, ce genre de choses. Et enfin l'obsolescence logicielle, peut-être que Frédéric pourra en parler un peu plus, mais c'est quand c'est le logiciel en fait qui est, et pas le hardware, pas le matériel, qui est facteur de l'accélération de l'obsolescence du produit, donc ce qui fait que ça raccourcit la durée de vie du produit. Et l'importance, en fait, alors il y a beaucoup de débats sur est-ce que c'est programmé ou pas, mais je pense que c'est pas vraiment ça l'important. Même si l'obsolescence programmée, vraiment au sens classique du terme, est un délit en France depuis 2015. Et donc, du coup, nous, on a porté 2 plaintes pour essayer de punir ce délit. Plus largement, en fait, c'est toute la durée de vie des produits qu'il faut allonger, parce que, et notamment des produits numériques, parce que l'impact environnemental de ces produits se situe surtout à la phase de fabrication. Par exemple, pour un smartphone, c'est environ 80% de ses impacts environnementaux qui se situent à la phase de fabrication et non pas à la phase d'utilisation ou de transport, par exemple. D'où l'importance, en fait, d'allonger la durée de vie du produit et de ne pas fabriquer des équipements dont ça pourrait être évité, en fait.
C'est vrai que mécaniquement, plus longtemps on fait durer un produit, moins souvent on en achète. C'est vrai que le lien est direct. Alors, vous parliez de 2015, donc la loi, effectivement, transition énergétique. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que, notamment dans cette définition de l'obsolescence programmée, là, il y a un amendement, donc on en parlera, qui vient proposer d'enrichir la définition. Et en fait, elle reprend une proposition qui avait d'abord été acceptée, puis rejetée, au moment de la lecture du projet de loi en 2015. Donc, on voit quand même les difficultés de faire rentrer ça, de faire rentrer ces considérations dans la loi et d'avoir une politique forte. Alors, vous parliez d'obsolescence logicielle et peut-être, si Frédéric, si vous voulez donner votre définition, votre lecture de cette notion.
Alors, on n'a pas encore de définition totalement arrêtée de l'obsolescence logicielle. Clairement, par contre, on a des constats qui sont avérés aujourd'hui, où on constate donc que le logiciel va déclencher l'obsolescence du matériel. Alors, on a différents cas qui sont notamment liés aux mises à jour, dont on va reparler après dans l'émission, j'imagine. Typiquement, pour prendre l'exemple plus classique, hein, parce qu'en fait, il y a des dizaines de formes hein, d'obsolescence logicielle, mais pour prendre l'exemple le plus classiquement vécu par les auditeurs et auditrices, c'est quand un vendeur de smartphone ne propose plus de mise à jour du système d'exploitation qui permet de faire fonctionner le smartphone. Pour le cas, on s'expose à des failles de sécurité et donc on est obligé d'abandonner un équipement qui fonctionne parfaitement, simplement parce que le logiciel qui s'exécute dessus n'est plus mis à jour et qu'on n'a pas envie de se faire voler ses données personnelles, par exemple. Et à l'inverse, on se retrouve avec des phénomènes, le phénomène d'obésiciel, où le smartphone est tellement mis à jour, et notamment avec des mises à jour évolutives, donc ils vont rajouter des fonctionnalités qu'on n'a pas forcément demandées, que petit à petit, il s'encrasse, et tout ce gras logiciel qui va s'empiler finalement sur le smartphone va tellement le ralentir que même si l'équipement matériel est fonctionnel, l'exécution du logiciel ralentit tellement le matériel qu'on ne peut plus l'utiliser de façon confortable, en fait. Et donc, ça va nous pousser de la même façon à changer de smartphone alors qu'il fonctionne parfaitement. Donc, le phénomène d'obsolescence logicielle, c'est quand un logiciel, pour une raison ou une autre, va déclencher finalement le renouvellement prématuré d'un équipement qui fonctionnait parfaitement avant qu'on mette à jour.
Très bien, merci pour cette explication. Ouais, c'est très clair. Alors, j'en tire deux choses. Bon, déjà, on voit l'importance et tout l'enjeu aussi d'avoir une maîtrise de son informatique, de la capacité de choisir ou non de mettre à jour, la capacité de pouvoir installer les logiciels que l'on souhaite, le système d'opération d'exploitation que l'on souhaite, donc finalement du logiciel libre. Et c'est pour ça donc que l'April aussi s'engage sur ce texte. Et une des difficultés, et c'est vrai que je pense qu'au-delà de ce texte, on constate souvent sur des sujets techniques, comment traduire cela aussi dans un langage juridique, dans une loi qui soit d'application générale. Et là, moi, de ce que je comprends, sur l'obsolescence logicielle, on est plus en train, on la définit entre les lignes, on la voit finalement, on la déduit plus qu'on ne l'observe. Et puis elle a des facteurs des aspects très divers que vous avez commencé à évoquer, et ce qui fait qu'il n'est pas évident d'adresser la question. Alors vous parliez, Adèle, ou Frédéric peut peut-être réagir là-dessus aussi, mais et pour revenir un peu au projet de loi, donc, divers aspects d'obsolescence, on constate donc qu'il y a une absence de l'obsolescence logicielle, elle n'est pas du tout prise en compte actuellement dans le texte proposé par le gouvernement, par le secrétariat d'État transition écologique. Est-ce qu'on peut finalement juste répondre à un aspect d'obsolescence et en ignorer un autre? Bon, j'ai l'impression quand même que tout est absolument intrinsèquement lié. Comment on peut adresser l'obsolescence programmée en ignorant sa composante logicielle? Qu'est-ce que vous en pensez?
Évidemment non, c'est vrai que le logiciel prend une importance croissante, surtout avec les objets connectés, parce qu'on a de plus en plus de logiciels et d'électronique dans des appareils qui n'en avaient pas auparavant, par exemple des frigos qui sont tous connectés en Wi-Fi aujourd'hui et tout ça. Mais c'est vrai que le texte ne parle pas du tout d'obsolescence logicielle, il n'y a rien là-dessus. Et c'est d'ailleurs ce qu'on essaye de changer en proposant des amendements, en proposant des choses sur l'obsolescence logicielle. Alors, il n'y a rien directement sur l'obsolescence logicielle, mais elle est abordée un peu indirectement par certains articles du texte, notamment l'article 2 qui parle de l'indice de réparabilité. L'indice de réparabilité, c'est une note sur 10 qui va être affichée sur tous les produits électriques et électroniques en magasin à partir de 2021, c'est-à-dire du coup tout ce qui est électroménager, électronique, donc les lave-linges, ordinateurs, smartphones et tout ça. Quand vous irez en magasin à partir de 2021, vous aurez une note sur 10 qui vous indiquera à quel point votre produit sera réparable ou pas. C'est-à-dire, est-ce que vous allez facilement trouver des pièces détachées? Est-ce qu'il sera facilement démontable et tout? Et dans ce cadre-là, pour les appareils comme les ordinateurs portables ou les smartphones, on a essayé avec Frédéric aussi de faire en sorte que le logiciel soit pris en compte dans cette note de réparabilité. De voir si, est-ce qu'on peut notamment installer un logiciel libre, est-ce qu'on peut faire les mises à jour et tout ça. Et du coup, indirectement, le logiciel est quand même pris en compte dans la loi.
Vous ferez une transition, effectivement, rentrer dans le texte, si on voit effectivement cet indice de réparabilité. Alors, qui va être envoyé après coup pour une meilleure définition en décret. Donc là, ce sera une nouvelle étape de suivre. Et donc il y a tout un enjeu, effectivement, de s'assurer que les composantes logicielles soient prises en compte dans cet indice de réparabilité. Frédéric, vous aviez peut-être des choses à rajouter
Oui, en fait, quand on regarde le texte actuel de la loi, quand on regarde un petit peu comment le monde politique en général s'empare du sujet de l'obsolescence programmée des produits électroniques, ce qu'on constate, c'est que l'électronique et l'informatique font encore peur en fait à des non-experts, et que le lien qui est très fort entre le déclenchement, entre le logiciel et le matériel, et donc le logiciel déclenchant l'obsolescence prématurée du matériel, est encore mal compris et mal perçu en fait finalement par les décideurs politiques qui, c'est normal, ne sont ni experts ni informaticiens et donc pas experts du sujet. Et donc aujourd'hui, on traite surtout la matérialité, ce qui est perceptible, c'est-à-dire l'objet en lui-même. Et il y a encore, je pense, un effort important d'éducation des décideurs politiques, tout parti, tout mouvement politique confondu, hein, pour leur faire comprendre à quel point le logiciel est devenu le déclencheur de l'obsolescence prématurée des équipements. Aujourd'hui, clairement, il suffit d'appuyer sur un bouton quand on a un grand éditeur ou un grand fabricant. Un bouton où on va forcer une mise à jour très grasse, très lourde et qui va faire ralentir des smartphones au point qu'on puisse plus les utiliser. Hein. C'est ce qu'a reproché l'Italie, par exemple, récemment. L'Italie récemment a condamné en fait Samsung pour une mise à jour forcée qui ralentissait trop un certain nombre de smartphones et qu'on ne pouvait plus utiliser. Donc aujourd'hui, clairement, il y a une méconnaissance en fait de ce lien entre le logiciel et le matériel de la part des pouvoirs publics. Il y a besoin, au-delà de tout ce qu'on va dire sur le texte de loi, de continuer à faire prendre conscience et à former en fait les responsables politiques.
Parfait. Alors, je pense qu'on peut peut-être rentrer et voir ce que vous proposez. Alors, Alto Obsolescence Programmée a publié un livre blanc et dont un des aspects, justement, je crois qu'il y a 8 propositions sur l'obsolescence dans son aspect logiciel. Alors là, vous évoquiez, vous en aviez déjà parlé, on peut peut-être rentrer un peu plus dans les détails sur cette proposition de Green IT, puisque vous évoquiez là, le grand logiciel, vous parliez d'obésiciel, et vous aviez évoqué plus tôt, voilà, c'est une des propositions que vous portez, la distinction entre ce qui serait les mises à jour correctives nécessaires donc, et les mises à jour évolutives. Et là, on voit très bien aussi donc, l'intérêt, notamment, je reviens, du logiciel libre qui permet finalement de garder la main sur les mises à jour que l'on souhaite faire, ou même s'il est encouragé de faire effectivement au mieux les mises à jour correctives, d'avoir une information et être en mesure de faire ce choix de manière éclairée. Est-ce que vous souhaitez détailler un peu plus cette question ?
Oui, alors effectivement, c'est une proposition qu'on a portée dans notre livre blanc qui est paru en avril de cette année, où on a 50 propositions pour une consommation, une production plus durable, où du coup, on fait des propositions à tous les échelons, local, national et européen. Et on a toute une partie sur l'obsolescence logicielle parce que pour nous, c'est un sujet important. Et cette partie, on y a travaillé notamment avec Frédéric Bordage, qui fait partie de notre comité d'experts, parce que comme on touche à beaucoup de sujets de l'obsolescence, c'est très large, on travaille avec des experts qui nous permettent d'affiner nos propositions. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu difficile à comprendre quand on connaît pas vraiment le sujet, c'est pour ça aussi qu'on travaille avec des experts. Mais je pense que tout le monde connaît la situation de faire une mise à jour, enfin d'être forcé en fait à faire une mise à jour par exemple sur son smartphone et ensuite de constater que la batterie se décharge plus vite, que les applications s'ouvrent plus lentement. Et effectivement, comme le disait Frédéric, il y a vraiment une grogne par rapport à ces situations et au-delà de la France même, où on a en Italie la condamnation de Apple et Samsung pour les mêmes faits, et une plainte en France pour obsolescence programmée contre Apple qui a été déposée par Hop, pour laquelle on a reçu plus de 14 000 témoignages. Donc il y a quand même vraiment un mouvement pour des produits plus durables et réparables et une vraie frustration des consommateurs. Et donc l'idée de cette proposition, c'est de faire en sorte qu'on puisse en fait déjà être informé des conséquences qu'une mise à jour peut avoir sur le fonctionnement de l'appareil, donc de savoir si la mise à jour qu'on va faire va potentiellement ralentir notre téléphone. C'est quand même la moindre des choses quand on achète un appareil d'être informé de ça. Et ensuite, de vraiment obliger les éditeurs de logiciels à dissocier deux types de mises à jour. Donc, comme le disait Frédéric, les mises à jour correctives qui corrigent des failles de sécurité qui sont nécessaires pour protéger ces données personnelles et tout ça. Et les mises à jour plutôt évolutives de confort, donc qui vont apporter des nouvelles fonctionnalités. Par exemple, revoir le design du système d'exploitation, ajouter des nouvelles fonctionnalités. Frédéric, peut-être si tu veux compléter ou préciser certaines choses que j'ai dites.
Oui, mais en fait, ce qu'on demande concrètement, c'est que les mises à jour correctives soient distinguées clairement des mises à jour évolutives, et notamment que les mises à jour évolutives soient dans un système qu'on appelle le double opt-in, c'est-à-dire qu'on demande le consentement systématique de l'utilisateur avant toute installation d'une mise à jour évolutive, ce qui fait que ça permettrait aux utilisateurs de choisir eux-mêmes d'engraisser leur système d'exploitation au point que ça le fasse ramer ou pas. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse maîtriser simplement son smartphone, son ordinateur portable, et qu'on puisse maîtriser les mises à jour de confort. C'est pour ça qu'on tient absolument à ce qu'il y ait un consentement systématique de l'utilisateur, ce qui fait qu'à fait, après cette grogne dont parlait Adèle avec plus de 14 000 personnes qui sont revenues vers nous, après on choisit de diminuer volontairement la durée de vie de son smartphone ou pas, en fait, concrètement. On devrait, compte tenu du code de la consommation, hein, même, on devrait être informé systématiquement quand la nature du logiciel est changée par une mise à jour. Ça devrait être un minimum aujourd'hui, en 2019, compte tenu du droit de la consommation, quoi.
Si je peux juste ajouter quelque chose, je pense que le problème des smartphones en particulier, c'est que c'est vraiment les cumulards de l'obsolescence programmée. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, il y a trois types d'obsolescence. L'obsolescence technique, la plus classique du terme, voilà, quand quelque chose ne fonctionne plus, logiciel et esthétique. Et les smartphones, en fait, on peut avoir vraiment les trois types, c'est-à-dire une difficulté, par exemple, à réparer, une batterie qui est soudée, qui est très difficile à remplacer, ou alors un écran qui coûte 600 euros à réparer, comme c'est le cas pour les derniers iPhones, par exemple. Et une obsolescence logicielle quand on fait une mise à jour qui va être lente. Et pile au moment où on fait une mise à jour, on va avoir une énorme publicité qui va nous vanter la rapidité et le design des nouveaux smartphones. Et donc forcément, tout est un peu fait pour nous pousser au renouvellement un peu prématuré de notre appareil.
C'est intéressant ce que vous dites, et on voit aussi à quel point finalement aussi elles sont très liées, ces formes d'obsolescence. L'aspect logiciel, mais des fonctionnalités nouvelles logicielles vont pouvoir peut-être amener un biais culturel ou une incitation, on va dire, par mimétisme, ou parce qu'un nouveau service et que nos proches l'utilisent également. On va être incité ainsi de suite à toujours rajouter finalement du gras numérique, comme l'évoquait Frédéric Bordage. Et on voit l'importance à nouveau là de la garantir et d'éduquer à la liberté informatique et au fonctionnement. Et là, on voit que c'est comme beaucoup de choses, hein, le savoir est une forme de pouvoir, et c'est comme ça qu'on peut s'assurer d'avoir une gestion responsable et maîtrisée réellement. Et on est vraiment avec une vraie connaissance des implications de nos pratiques. Et là, j'ai l'impression plus, on en reviendra peut-être sur l'autre aspect qui serait plutôt, on va dire, l'obsolescence introduite dans les produits, mais on voit vraiment que l'aspect finalement aussi systémique, où on est toujours poussé à la consommation, où il y a une accélération toujours plus poussée, mais qui est assez inhérente peut-être au système économique tel qu'il fonctionne. On voit l'importance et la manière, grâce à nos libertés informatiques, de pouvoir reprendre possession et reprendre une maîtrise de nos outils. Je vous propose de faire une petite pause musicale avant peut-être de voir les autres propositions, les autres amendements portés par les sénateurs. Donc on vous laisse avec Kelly Mays, 2012.
The rich and ignorant feed, but there's another message being told. Not one of doom and gloom, but our collective power to behold. We must unify, or we might as well die. Stop thinking just about I. Be peaceful on behalf of the tribe. Realize we are divine. We are in a space of no time. The minds who we would align. Be a sound mind, pay attention to the signs. Wants to keep you stocking food and spending loot. Instead, use your heart. It's a community. You know it's all fake. Babylon don't want unity. Put your mind in earthquake. Don't want us to co-create. I've been gathering the girls and owls. We run deep. White buffalo calf. Women leading love. Armies. Red road below feet. We are rainbow warriors. Replacing the warriors. Write a whole new story up. Hold peace in our heart. Be our own product. Accelerator and
press start. I heard this from a Mohawk, Hopi, Navajo, and Aztec. Indigenous prophecy, many think we're heading for Atlantis. Mayan message of opportunity resonates. This is a sacred time and place. Keep your mind and intentions positive in these final days. You'll find the crazy part of the plan, which you're dumb, scared, and in a daze.
We must unify. Means a shift in consciousness that is depending on our internal and collective ascending into unity that is unending. We may lose power in the final hour. What message are you sending? If you don't dig transcendence, then try these 10 commandments. 1. Be grateful and fun. Love all like never before. 2. Forgive all in yourself. Forget, set, let's go. 3. Let be, let live. Honor, exchange, accept, give. 4. Transmute fear, just feel it, then let go. 5. Honor feminine within all and let it flow. 6. Like Toltec function, don't take it personal or make assumptions. 7. Respect Mother Earth and all of nature. 8. Don't hurry your worry, it's using your imagination for what you don't want. 9. Live from your heart and your truth and don't front. 10. Don't let the voices inside stop ya, you are God. Gotcha.
Tremendous opportunity to shift from the love of power to the power of love. I, for one, will be doing all I can to envision and create the rebirthing of a planet that works for all.
Vous êtes toujours avec nous sur Libre à vous, l'émission de l'April, pour comprendre et agir avec nous pour les libertés informatiques. Vous venez d'écouter 2012 de Kelly Mays, et si vous avez prêté attention, elle est tout à fait en lien avec notre émission, puisqu'elle appelle à une meilleure conscience écologique. Donc je suis toujours avec Frédéric Bordage de Green IT et Adèle Chasson de Alt Obsolescence Programmée, et nous parlions d'obsolescence logicielle en général et plus spécifiquement dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et pour une économie circulaire. Donc comme je vous disais, à un moment là on est en train d'enregistrer mardi 17, il est 10h40, mais là vous vous écoutez, on est dans l'après-midi, et en ce moment donc, au moment de la diffusion, le projet de loi est débattu au sein de la commission développement durable du Sénat, et quelques amendements ont été déposés, et la plupart reprenant des propositions portées par HOP et par Green IT. Donc on peut citer, d'ailleurs, je vous rappelle, tous les documents qu'on évoque seront en lien sur april.org, sur la page de référence, vous pourrez tous les retrouver. Et notamment, on a fait une actu où on récapitule les différents amendements que je vais vous citer, et avec les liens directs. Donc, on a par exemple le COM87, porté par Guillaume Gontard du groupe communiste républicain, qui adresse la question de la distinction entre les mises à jour correctives et mises à jour évolutives et l'importance de l'information autour de cette distinction. On a trois amendements similaires, donc 86, 346 et 398, portés respectivement par les communistes, par le Parti Socialiste et par La République En Marche, qui vise à préciser que toute technique, y compris logiciel, par lequel un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d'un appareil hors de ses circuits agréés, est interdit. On peut voir l'importance et l'utilité d'une telle disposition. Puis on peut également citer le COM404, qui ne peut que prêter à sourire quand on sait que le code 404 évoque une erreur informatique. Cet amendement est intéressant, ce qu'il propose. C'est assez classique dans les projets de loi de proposer des rapports, mais celui-ci appelle la remise d'un rapport en janvier 2022, donc on a un peu de temps, mais un rapport sur l'obsolescence logicielle remis par le gouvernement à l'Assemblée. C'est un amendement porté par La République En Marche. Donc au moins, il aura le mérite d'assurer finalement qu'il y ait un débat autour de ces questions. Je pense qu'on peut peut-être, puisqu'on évoquait donc les différentes propositions, s'arrêter peut-être un moment sur celle que j'ai citée, sur le fait de ces techniques qui rendent impossible la réparation, le reconditionnement. Alors on a parlé de réparation, on n'a pas parlé de reconditionnement, Et ça, c'est effectivement une manière utile de faire progresser la durée de vie, puis d'éviter de consommer des nouveaux terminaux. C'est-à-dire qu'on va prendre un ancien terminal et par un certain savoir-faire, qui soit technique et aussi par des mesures logicielles, lui redonner une seconde vie, un second souffle, et donc d'augmenter sa durée de vie. Peut-être pouvez-vous nous détailler qu'est-ce qui vous a porté à pousser cette proposition et qu'est-ce qu'elle implique.
Oui, alors effectivement, donc le reconditionner, on pourra peut-être en reparler en dernière partie, mais c'est vraiment de remettre à neuf des produits qui ont déjà eu une première vie, donc c'est d'allonger aussi la durée de vie de ces produits. Effectivement, on a fait plusieurs propositions qui ont été reprises par des sénateurs dans le cadre des amendements de la loi, sur l'obsolescence logicielle notamment, mais aussi pour nous, en tout cas, beaucoup plus large aussi sur tous les produits, les pièces détachées, les garanties, la réparation, tout ça. C'est vrai qu'on peut distinguer un peu deux niveaux d'ambition, ceux qui relèvent de la contrainte, c'est-à-dire par exemple à obliger en fait les mises à jour à être dissociées, comme on en parlait, entre mises à jour correctives et évolutives. Donc ça, c'est quand même assez ambitieux. On verra si ce sera accepté, notamment par le gouvernement et tout ça. Et un autre niveau d'ambition un peu plus bas qui est la dernière proposition dont vous avez parlé, celle de faire un rapport sur l'obsolescence logicielle. Parce que quand on parle de dissociation des mises à jour avec les décideurs publics, souvent la réaction qu'on a, c'est, comme le disait Frédéric, en fait, un peu une appréhension, une incompréhension aussi de ce que c'est vraiment une mise à jour, comment ça fonctionne, est-ce qu'on peut vraiment dissocier les deux et tout ça. Et du coup, notre proposition, c'est aussi potentiellement, on pourrait faire un rapport, mais plutôt vraiment que sur l'obsolescence logicielle, pour vraiment comprendre ce que c'est, un rapport donc du gouvernement au Parlement. Donc un rapport officiel qui donne aussi un certain nombre de propositions pour ensuite le traduire en mesures concrètes, du coup qui expliquerait quels sont les enjeux derrière l'obsolescence logicielle, qu'est-ce qui se fait dans d'autres pays aussi, parce que c'est quelque chose qu'on connaît pas forcément et c'est un des sujets assez nouveaux en plus, et quelles mesures on peut mettre en place pour allonger la durée de vie des équipements numériques.
Frédéric ?
Oui, sur la réparation, en fait, on a une proposition commune à greenit.fr sur notamment la mise à disposition des mises à jour, parce que quand on veut réparer ou reconditionner, ce qui est finalement la même chose, quelque part dans le geste technique, la première chose dont on a besoin au niveau logiciel, c'est que les versions de systèmes d'exploitation, les mises à jour de ces systèmes d'exploitation et les drivers, donc les pilotes qui vont permettre de piloter certains périphériques, soient disponibles simplement. Sinon, on ne peut pas commercialiser une machine remise en état ou réparée avec la version du système d'exploitation que l'on souhaite. Et donc clairement, on voit directement le lien avec notamment les logiciels libres qui sont disponibles, eux. Donc dans nos propositions, on a l'obligation de mise à disposition des mises à jour logicielles, des pilotes périphériques et des systèmes d'exploitation, pour simplement que les réparateurs puissent faire leur travail. Ça, c'est le premier aspect qui peut bloquer aujourd'hui au niveau logiciel quand on veut allonger la durée de vie d'un matériel. Et puis, on a un deuxième aspect qui est celui des verrous logiciels. On a eu le cas plusieurs fois ces deux dernières années où quand des réparateurs souhaitaient, par exemple, remplacer une pièce défectueuse sur un smartphone, donc remplacer une pièce matérielle défectueuse sur un smartphone, le système d'exploitation détectait que la pièce défectueuse était une pièce générique et pas la pièce vendue par le fabricant du smartphone et bloquait l'usage du smartphone, par exemple. On a un certain nombre donc de verrous logiciels qui verrouillent la réparation, en tout cas qui obligent les réparateurs à réparer exactement comme le souhaitent les fabricants, avec exactement les pièces que eux vendent et surtout pas d'alternative. Et donc on pense que ce deuxième sujet sur les verrous logiciels, en fait, est un sujet très important si on veut pouvoir allonger la durée de vie de nos équipements numériques au sens large, ordinateurs, smartphones. Il faut pouvoir les réparer, il faut pouvoir les réparer comme on souhaite les réparer, avec qui on souhaite les réparer, où on souhaite les réparer. Et donc les verrous logiciels, c'est aussi un gros frein aujourd'hui à l'allongement de la durée de vie de ces produits.
Oui, tout à fait. Alors, pour prendre une analogie, pour nos auditeurs et auditrices, on imagine par exemple un capot de voiture. Est-ce qu'il faudrait une clé spéciale pour qu'un garagiste puisse lever le capot, une clé spéciale pour qu'il puisse aller observer les différentes composantes, et une clé spéciale qui serait bien sûr fournie par le fabricant exclusivement de la voiture, en imaginant les grosses problématiques, les grosses limites que ça peut mettre en termes de réparabilité. Et sur le terme de verrou, qu'on est bien aussi à l'esprit qu'il ne s'agit pas de verrouillage comme un cadenas qui viendrait protéger, parce que c'est parfois l'argument utilisé, il s'agit bien de bloquer, d'empêcher, de restreindre l'accès à certaines composantes, à certains logiciels. Nous, par exemple, effectivement, dans ce sens-là, on va essayer à l'arrêt, on agit de manière générale, mais dans ce projet de loi, on va essayer de porter une proposition qui va, par exemple, dans le même sens, et juste pour donner, par exemple, différents aspects. On sait qu'il existe, alors ça se passe au niveau de la carte mère, je n'ai pas du tout entré dans les détails techniques, mais des systèmes qui empêchent tout simplement l'installation d'un système d'exploitation, notamment un système d'exploitation libre. Donc en termes de reconditionnement, ça va être un gros blocage, et en termes de liberté informatique, bien sûr. Alors le temps file, ouais, je vous propose peut-être, alors déjà pour nos auditeurs et auditrices, de se demander qu'est-ce qu'on peut faire. Alors sur ce projet de loi, donc nous, l'April, et bien sûr j'imagine à l'obsolescence programmée, vous allez continuer à sensibiliser, à informer. Donc là, comme je vous disais, aujourd'hui, et à l'instant finalement de la diffusion, c'est les amendements et le projet de loi sont discutés dans la commission. Ils seront ensuite en séance publique discutés les 24, 25 et 26 septembre. Et là, tout l'enjeu, voilà, sera de se mobiliser. Alors, se mobiliser, le plus efficace, hein, ça reste quand même de contacter alors les sénateurs tant que c'est au Sénat, puis les députés pour les informer, pour les sensibiliser, pour leur expliquer voilà, que ce sujet est fondamental et qu'il faut soutenir les amendements qui seront déposés. Relayer aussi l'information est toujours très utile, que ce soit sur les réseaux sociaux et puis simplement dans ces cercles de contact. Et un autre aspect que vous évoquiez sur le fait que par rapport à ces amendements, il y a un risque qui est toujours malheureusement réel. Comme le gouvernement n'a pas introduit ces questions-là et qu'elles ne sont pas spécifiquement mentionnées dans l'exposé de motifs, le gouvernement peut très bien pousser à considérer que s'agit de ce qu'on appelle des cavaliers législatifs, donc des amendements hors sujet. Donc c'est pas un risque qui est complètement absent. L'intérêt, par contre, voilà, d'avoir des amendements, notamment République en marche, qui appellent à un rapport, peut donner de l'espoir qu'au moins le débat ait lieu sur ces sujets et qu'on en parle pendant l'étude du sujet. Et au-delà du projet de loi, là, je pense que vous aurez des choses à proposer et à informer à nos auditeurs auditrices. C'est finalement aussi, alors, OK, il y a ce projet de loi, mais dans les pratiques quotidiennes, ce qu'on peut faire pour améliorer la durée de vie, pour avoir un rapport plus responsable, plus durable, enfin, faire durer finalement nos terminaux mobiles, nos ordinateurs et nos équipements en général.
Oui, si je peux juste ajouter une chose sur le projet de loi. Donc effectivement, je pense que c'est toujours intéressant d'envoyer un petit mail à son sénateur ou à son député pour aussi lui demander en fait ce qu'il fait pour allonger la durée de vie des produits, pour prendre en compte l'obsolescence programmée dans ce texte. Juste en fait pour porter ce problème à la connaissance des sénateurs et des députés aussi, qui sont quand même responsables devant leurs électeurs. Et le problème de ce projet de loi, en fait, et ses limites surtout, c'est qu'il se concentre beaucoup sur l'information du consommateur. L'idée, c'est de dire en fait que si on informe le consommateur de quel produit est le plus réparable, de quel produit est le plus vertueux pour l'environnement et le moins vertueux, ça va un peu régler le problème de l'obsolescence. Et en fait, il suffira de choisir les meilleurs produits. Mais ce qu'on voit, nous, et ce qu'on a vu par un sondage qu'on a fait au moment des élections européennes, c'est que les consommateurs attendent avant tout de la part des pouvoirs publics de vraiment apporter des obligations, des contraintes, notamment sur les entreprises, pour empêcher en fait des pratiques problématiques, par exemple d'interdire l'obsolescence programmée au niveau européen ou d'imposer une durée de disponibilité des pièces détachées. Les gens trouvent ça aberrant en fait qu'on puisse acheter par exemple un téléphone portable qui n'ait plus de pièces détachées après 2 ans. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas le réparer concrètement. Donc c'est important aussi de faire comprendre qu'il faut aller plus loin que juste l'information du consommateur et vraiment ne pas hésiter à ce que l'État exerce son pouvoir de contrainte et d'interdiction aussi. Et sur ce qu'on peut faire au niveau individuel, à son échelle, pour allonger la durée de vie des produits, notamment numériques, il y a plein de choses. Notamment, du coup, on en parle beaucoup, nous, sur notre plateforme produitsdurables.fr pour donner des informations et des conseils très concrets à chacun pour faire durer ses produits, notamment smartphone et ordinateur. Donc comment acheter durable, entretenir son produit, des ressources pour réparer ou faire réparer, et enfin bien gérer tout ce qui est garantie, bien comprendre la différence entre garantie légale et commerciale, comment faire jouer la garantie et comment se débarrasser de son produit dans le respect le meilleur respect de l'environnement possible. Et notamment pour les smartphones, du coup, ça passe par, si vous souhaitez acheter un smartphone, pourquoi pas plutôt en acheter un reconditionné, comme on disait, plutôt que neuf, pour éviter la pression sur les ressources naturelles qu'a un smartphone, parce que c'est beaucoup de métaux rares et un gros impact environnemental au moment de la fabrication. Donc pourquoi pas acheter un smartphone qui a déjà servi. Et puis entretenir son téléphone, protéger l'écran, la batterie, tout ça, il y a des choses très, très simples à mettre en place. Et puis à la fin, en fait, notre plateforme Produits Durables donne aussi des classements des marques les plus fiables par catégorie de produits, donc les marques les plus durables, réparables. Et chacun peut contribuer à ces classements en notant ses produits à la fin de leur vie. Quel produit a été le plus durable, le plus fragile, le plus difficile à réparer ?
Très bien. Donc, si ce que je retire de ce que vous dites, c'est d'une part, effectivement, l'information est importante, mais déjà aussi, il faut savoir comment comprendre cette information, comment la traiter, comment l'utiliser finalement pour en faire un savoir qui soit utile. Et puis, on voit à nouveau, et je crois que vous l'avez bien résumé, cette idée que, par exemple, couper l'eau pendant qu'on se brosse les dents, c'est très bien, et il faut le faire, mais c'est pas la réponse. La réponse doit être systémique, elle doit être globale, elle doit venir, ça doit être une vraie décision politique. Et de la même manière, il suffit pas des petits gestes individuels, même s'ils sont importants, on a besoin de textes ambitieux qui proposent de vraies actions, qui fassent des vraies contraintes sur les producteurs de produits et sur le marché en général. Frédéric, est-ce que vous avez des conseils pour nos auditeurs auditrices ou d'autres choses à dire sur le projet de loi ?
Alors en fait, sur les conseils, je les renverrai directement sur notre site greenity.fr où on a des articles avec des listes de gestes clés à mettre en œuvre, pour tout ça pour gagner du temps, parce qu'il y a un dernier point, je pense, qui est important à aborder, qu'on n'a pas abordé sur le projet de loi, c'est les objets connectés. On s'attend à un tsunami d'objets connectés, jusqu'à plus de 65 milliards d'objets connectés d'ici quelques années. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un objet connecté, aujourd'hui, dans sa conception, c'est comme une télévision qui serait bloquée sur une seule chaîne. Imaginez que le fournisseur du contenu de la chaîne de télévision dépose le bilan, alors votre objet connecté devient crétin et n'a plus du tout la capacité, ne fonctionne plus. Et donc ce qu'on appelle techniquement l'ouverture des API des objets connectés, et qui va beaucoup résonner pour les gens qui connaissent le monde du logiciel libre, l'ouverture de ces API, ça revient simplement à dire on ne devrait pas, et là je reboucle sur le projet de loi, on ne devrait pas pouvoir en 2019 vendre dans le monde des télévisions ou des radios bloquées sur une seule chaîne sans laisser la possibilité aux consommateurs de pouvoir changer de chaîne de télévision ou de fréquence de radio. Or, c'est ce qu'on est en train de faire avec les objets connectés. Il y a donc un enjeu énorme d'un point de vue législatif sur ce sujet-là, et je pense que c'est un sujet qu'il faudra vraiment aborder, j'espère qu'on arrivera à l'aborder dans le cadre de la loi économie circulaire. Et si c'est pas le cas, ultérieurement, parce qu'on est en train de créer l'obsolescence, d'accélérer l'obsolescence de milliards d'équipements numériques, des dizaines de milliards d'équipements numériques. Donc je pense que c'est un autre sujet vraiment très important à aborder.
Oui, alors vous parliez, juste pour préciser, pour dérouler, vous parliez d'API, donc d'interface de programmation, et clairement, je pense qu'à l'aune demande de cette tendance du développement énorme des objets connectés, on voit bien que finalement l'obsolescence logicielle, c'est pas juste les ordinateurs et terminaux mobiles, même si c'est déjà quelque chose de conséquent, ça a effectivement un impact significatif sur énormément d'équipements qu'on peut avoir et de la manière dont on consomme en général, oui.
Un objet connecté, il est intelligent parce qu'il est connecté. Si, quand il est connecté, il reçoit plus de données parce qu'il y a un problème technique ou un dépôt de bilan, alors il fonctionne plus. Et donc c'est vraiment critique de pouvoir ouvrir les interfaces de communication de ces objets. C'est vraiment un sujet absolument critique.
Frédéric, je crois que vous allez devoir nous quitter bientôt. Est-ce que vous avez un dernier mot peut-être que vous souhaitiez
Alors peut-être un peu plus, pour ouvrir le sujet un peu plus philosophique, ce que je note depuis 15 ans, c'est qu'on a vraiment une convergence dans les valeurs fondamentales entre le monde du développement durable, HOP, Kainaki.fr, etc., qui tentent de léguer finalement un avenir, si on se concentre sur le numérique, un avenir numérique plus enviable pour nos enfants, et le monde du logiciel libre, en fait, qui depuis alors, des décennies, finalement partage les mêmes valeurs, et on voit aujourd'hui converger un peu partout dans la société, en fait, des visions, en fait, qui sont en train de converger vers cette forme de sobriété numérique, avec toutes les valeurs qu'on peut avoir de partager entre le monde du libre et le monde du développement durable, et je trouve que c'est très encourageant en fait pour l'avenir de nos enfants.
Un beau mot de conclusion. Adèle Chasson, quelque chose à rajouter ou...
Oui, il y a une proposition aussi qu'on a, qui est importante dans le cadre de la loi, dont je n'ai pas parlé encore, c'est sur l'indice de réparabilité. L'une de nos propositions principales, en fait, c'est d'aller plus loin que ça, vers un indice de durabilité, c'est-à-dire d'un affichage de la durée de vie des produits. Parce que ce qu'on constate, c'est que les consommateurs, ok, c'est bien de savoir qu'on va pouvoir réparer un produit en panne, mais ce qu'on veut quand même, c'est qu'il ne tombe pas en panne de base. Donc, de savoir à quel point il va pouvoir être durable, solide et réparable, c'est dans un indice de durabilité plus large, du coup, c'est important. Et on a aussi fait des propositions dans ce sens-là, surtout qu'un indice de durabilité, du coup, inclut plus la question du logiciel, parce que le logiciel, c'est pas seulement de la réparabilité, c'est aussi de la durabilité, de savoir qu'on va pouvoir installer des logiciels libres, revenir à une version précédente, etc. Ça peut être considéré plutôt comme de la durabilité que de la réparabilité. Et puis pour finir, en attendant ces contraintes, ces indices, cette information, l'important à notre échelle, c'est de s'informer sur quels sont les produits les plus durables et puis aussi de se fédérer, notamment au sein de HOP, sur notre site, altobsolescence.org, pour se fédérer, montrer qu'on est de plus en plus nombreux à vouloir des produits qui durent, qui sont réparables, notamment avec la question du logiciel, et d'avoir d'autant plus de poids auprès des industriels et des décideurs publics.
Très bien. Frédéric, je crois que vous devez nous quitter, mais je vous remercie pour votre participation à notre émission. De toute façon, le sujet le touche à notre fin. Et puis bon courage pour la suite avec Green IT. Merci pour vos actions sur ces questions.
Merci, bonne journée.
Bonne journée. De toute façon, sur la fin, moi, je pourrais vous parler de durabilité et on peut évoquer des pour les terminaux mobiles, on avait reçu. On avait fait une émission, on vous mettra le lien sur april.org, sur différentes solutions, projets qui visent à offrir des terminaux mobiles plus durables et plus libres. On peut penser au projet Librem, le projet Fairphone, le projet Réplicante, là, qui appuie sur le logiciel et qui permet, dont l'objet est véritablement d'assurer la durabilité. Je pense qu'effectivement, le terme est juste et habile et une maîtrise de nos outils. Donc on peut rappeler que la semaine prochaine, il sera utile de se mobiliser pour la semaine prochaine pour soutenir les amendements et voir si effectivement la question de l'obsolescence logicielle sera prise en compte. On va suivre, voir quand le sujet va revenir à l'Assemblée nationale, où là encore, il y aura une occasion d'assurer finalement la meilleure prise en compte de ces considérations absolument indispensables pour un numérique plus durable, plus libre, et ainsi de suite. On a fait un bon tour, je pense, de la question. Oui. Et de toute façon, c'est vrai que le sujet est très vaste. En tout cas, merci pour votre participation, d'avoir accepté notre invitation à ce sujet. Et puis, on continuera, je pense, à agir ensemble sur ce projet de loi.
Merci à vous. Avec plaisir.
Eh bien, c'était le sujet consacré à l'obsolescence programmée et au projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, donc avec nos invités Adèle Chasson de Halt à l'obsolescence programmée et Frédéric Bordage, expert indépendant numérique responsable et fondateur de GreenIT.fr et membre du comité d'experts de Halt à l'obsolescence programmée. Nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Seven Sisters par Bert Gered et on se retrouve juste après. You are thinking of love. Now that your house sleeps in silent renown. Cause commune
93.1. Biting on the hands that shape this sound.
first to go out, first little heart. First to come home, first little home. Shadow play, highway rippling tonight. I just miss sight that feeds on a light. A light that comes from little stars. Seven young sisters reconcile. Joe the first to go out, first little heart. First to come home, first little one.
Seven Sisters par Bert Gered, musique libre disponible sous licence Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Texte, image, vidéo ou base de données sélectionnée pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Jean-Christophe Becquet nous présente une ressource sous une licence libre. Les auteurs ou à l'origine de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. C'est donc la chronique Pépites libres de Jean-Christophe Becquet, président de l'April. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, tu vas nous parler du concours mondial de photos libres Wikiloves Monuments.
Oui, Wikilove Monuments est, comme tu l'as dit, un concours mondial de photos libres qui se déroule pendant tout le mois de septembre. Il porte sur le patrimoine architectural et vise notamment à illustrer les articles de l'encyclopédie libre Wikipédia. Le concours, initié en 2010 aux Pays-Bas, a été officiellement reconnu comme le plus grand concours de photographie du monde en 2012. Il se décline aujourd'hui dans 48 pays, et a déjà permis d'enrichir la médiathèque libre Wikimedia Commons de plus d'1,5 million d'images partagées par 60 000 contributeurs. Dans chaque pays participant, un jury choisit les 10 meilleures photos qui participent ensuite à la sélection mondiale. En France, l'édition 2019 porte sur quelque 200 000 bâtiments et autres trésors du patrimoine. Le site du concours donne la liste des monuments éligibles que l'on peut localiser sur une carte. Il suffit de zoomer sur votre commune pour trouver les monuments à photographier autour de chez vous. N'hésitez pas à profiter des journées européennes du patrimoine pour participer à votre tour. Vous pouvez prendre de nouvelles photos ou fouiller vos disques durs pour sélectionner vos meilleurs clichés. Il suffit ensuite de les partager sous licence libre Creative Commons by SA, attribution, partage à l'identité. Il n'est pas obligatoire que les photos aient été prises en septembre. C'est la date de dépôt sur Wikimedia Commons qui fait foi. Aussi, n'oubliez pas, Vos anciennes photos sont également éligibles. Chaque contributeur peut soumettre plusieurs photos, il n'y a pas de limitation. Wikilove Monuments a reçu le soutien de l'UNESCO, qui souhaite encourager la création de contenus sous licence libre. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l'association Wikimedia France tiendra un stand à la maison de l'UNESCO ce week-end, samedi 21 et dimanche 22 septembre, de 10h30 à 18h. Ils invitent le public à devenir acteur de la promotion et de la protection du patrimoine de manière ludique. Si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à venir à leur rencontre. Au printemps, a lieu un autre concours, Wiki Love Earth. Celui-ci, consacré au patrimoine naturel, se déroule chaque année en mai. En attendant de connaître les finalistes du millésime 2019 Wiki Love Earth, on peut déjà parcourir les photos gagnantes de l'édition française et de plusieurs autres pays. Vous pouvez me croire, on y trouve plusieurs pépites.
Alors merci Jean-Christophe. On va indiquer que le site de Wikilove's Monuments, bah c'est wikilovesmonuments.fr, c'est bien ça ?
Exact, pour l'édition française.
Pour l'édition française, parce que c'est une édition mondiale, et sur laquelle c'est important effectivement que le site précise quels monuments sont éligibles. Parce que tiens, je me pose une question, est-ce que tous les monuments sont éligibles avec les questions notamment de droit des photographes ou des éclairages? Est-ce que tous les monuments sont éligibles à ce concours?
Alors, éligibles au concours au sens où effectivement on souhaite avoir des photos libres du plus grand nombre possible de monuments, oui, mais les organisateurs du concours précisent très bien que les contributeurs doivent vérifier les autres droits attachés aux photos qui sont soumises dans le cadre du concours. Et donc, effectivement, en France, il n'y a pas ce qu'on appelle la liberté de panorama qui permet d'avoir le droit de photographier des bâtiments dont les droits de l'architecte ou l'éclairage, comme par exemple dans le cas de la Tour Eiffel à Paris, sont protégés. Et donc ça, effectivement, c'est une restriction sur les contributions possibles. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un très grand nombre de bâtiments aujourd'hui qui ne sont plus protégés par des droits et qu'on peut aller librement photographier pour illustrer Wikipédia et contribuer au concours Wikilove Monuments.
D'accord. Et on peut contribuer jusqu'à quelle date ?
Donc c'est tout le mois de septembre jusqu'au dernier jour de septembre à minuit. Donc comme je l'ai dit, c'est la date de dépôt, la date de mise en ligne des photos de soumission dans le cadre des concours, des photos dans le cadre du concours qui fait foi. Et donc si on a des photos même qui datent d'il y a quelques années ou qui ont été prises à une autre saison, on peut tout à fait les soumettre. La seule condition, c'est de respecter le délai mis en ligne dans le cadre du concours avant le 30 septembre minuit.
D'accord. Alors peut-être une question piège, parce que je ne sais pas si tu sais, mais les membres du jury, qui sont les membres du jury qui vont donc choisir ces 10 meilleures photos ?
Alors, pour l'édition française, le jury est composé d'experts, de contributeurs Wikipédia, experts en patrimoine, de photographes professionnels, et je crois qu'il y a également le ou des vainqueurs de précédentes éditions du concours Wikilove Monuments.
D'accord. Et est-ce que toi, à titre personnel, tu as déjà participé, tu vas participer ?
Alors non, je n'ai jamais participé, je ne suis pas photographe. Par contre, j'ai à plusieurs reprises utilisé des photos de ces concours Wikilove Monuments et Wikilove Earth pour illustrer des activités, des conférences. L'année dernière, la précédente édition de Wikilove Earth avec la médiathèque de ma ville à Digne-les-Bains, on a accompagné les publics de la médiathèque à participer au concours. Et là, à nouveau, pour l'édition Wikilove Monuments, les personnes qui donc à Digne voudraient participer au concours, mais qui ne maîtrisent pas la mise en ligne de leurs photos, les questions de licence, etc., peuvent venir à la médiathèque pour être aidés, pour être accompagnés dans leur participation au concours.
D'accord. Et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a une présentation donc, qui a lieu par Wikimedia France, donc, qui est la structure qui organise ce concours, donc à la Maison de l'UNESCO, donc, qui est à Paris. Donc ce week-end, samedi 21 et dimanche 22 septembre, parce qu'on rappelle que c'est dans le cadre aussi des journées européennes du patrimoine. Mais je suppose qu'il y a d'autres événements qui se passent sans doute dans d'autres régions et qui doivent être annoncés sur le site de l'agenda du Libre, agendadulibre.org.
Oui, tout à fait. Alors, en France, je n'en ai pas vu, mais pour Wikilove Monuments, mais j'ai vu que en Italie, par exemple, de plus en plus de territoires en fait s'emparent de ce concours Wikilove Monuments pour organiser des éditions locales qui donnent lieu ensuite à des petites remises de prix, à des expositions locales, et donc les concours en fait s'imbriquent les uns dans les autres par territoire croissant, c'est-à-dire qu'on a d'abord les éditions locales. Nous à Digne, on avait organisé un Wikilove Earth sur la région sud PACA. Ensuite, les concours nationaux, Wikilove Monument France, Wikilove Monument Espagne, Italie, etc. Et ensuite, le concours mondial. Et l'objectif, en fait, c'est d'encourager le plus grand nombre de contributeurs à participer à ces concours.
D'accord. Alors, je précise que pour les contributeurs ou contributrices francophones, sur le site donc wikilovesmonuments.fr, il est indiqué qu'il y a aussi des actions en Tunisie, au Maroc, en Algérie, ainsi qu'au Canada. Et donc, il y a un lien qui permet de préciser, enfin, de voir si le pays participe à cette manifestation, enfin, à cet événement, à ce concours de photos libres mondiales. Donc, wikilovesmonuments.fr. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, cher Jean-Christophe ?
Non, c'est tout pour aujourd'hui, merci.
D'accord, bah écoute, on se retrouve le mois prochain pour la prochaine chronique Pépite Libre. Je te souhaite une belle journée.
Entendu, merci, belle journée à tous les auditeurs et auditrices, au revoir.
Nous approchons de la fin de l'émission, donc nous allons terminer par quelques annonces. Alors, on a un peu de temps parce que on est un petit peu en avance, donc les annonces. D'abord, j'y réponds aux questions du quiz, parce qu'évidemment, si j'oublie les réponses. Donc la première question, c'était, lors de l'émission du 10 septembre 2019, nous avions évoqué une nouvelle école d'informatique conçue avant tout par des femmes et qui s'adresse aux femmes post-bac. Et la question, c'était, quel est le nom de cette école ? Eh bien, le nom, c'est ADA Tech School. Donc le site web, c'est ada-school.com. Comme, alors ça se passe en France, hein, je crois de mémoire que c'est à Paris. Et j'en profite pour signaler d'ailleurs concernant Ada, donc Ada Lovelace, hein, qui est la première programmeuse de l'histoire, le livre de Catherine Dufour, qui s'intitule Ada ou la beauté des nombres. Et je pense qu'on va envoyer prochainement une invitation à Catherine Dufour pour venir nous parler un petit peu de Ada Lovelace. La deuxième question concernait donc le sujet du jour, hein, l'économie circulaire et l'obsolescence programmée, la durée de vie, la réparabilité de nos outils informatiques. Et la question, c'était, nous vous avions présenté il y a quelques mois des projets libres visant à rendre des terminaux mobiles non seulement plus libres, mais aussi plus durables. Et on vous demandait si vous pouviez en citer un ou deux de ces projets. Donc c'était dans l'émission du 6 novembre 2018. Donc le podcast et la transcription sont en ligne sur le site de l'April, april.org et sur causecommune.fm. Et parmi ces projets, notamment, il y a Lineage OS, Réplicante, il y a le Fairphone, excusez-moi, LibreM, donc qui sont à la fois du matériel, du logiciel libre. Donc écoutez l'émission du 6 novembre 2018 et vous en saurez plus sur ces outils libres. Alors, je vais continuer ensuite. Alors d'abord, avant les annonces, dans le premier sujet du jour, Marie-Odile nous a parlé de textes de Richard Stallman, qui est une des personnes à l'origine du mouvement du logiciel libre dans les années 80, qui est fondateur et qui était jusqu'à très récemment toujours président de la Fondation pour le logiciel libre. Alors, je disais dans le sujet que Richard Stallman est dans l'actualité depuis ce week-end, mais pas pour de bonnes raisons. Il a été annoncé hier soir la démission de Richard Stallman de son poste de président de la Fondation pour le logiciel libre. Alors cela fait suite à des publications d'échanges de courriels sur une liste interne du MIT, donc une université et institut de recherche américain dans lequel Richard Stallman a travaillé dans le passé, dans lequel il a toujours un bureau. Ces échanges portent sur les conséquences de l'affaire Jeffrey Epstein, donc le trafic de personnes mineures, conséquences au MIT et notamment l'implication d'un ancien collègue de Richard Stallman, Marvin Minsky, grand scientifique américain et qui a travaillé de très nombreuses années au MIT. Je crois que de mémoire, il dirigeait le laboratoire d'intelligence artificielle. À noter que Marvin Minsky et Jeffrey Epstein sont tous les deux décédés. Hein. Jeffrey Epstein récemment en août 2019 et Marvin Minsky en 2016. Donc des échanges de courriels qui ont généré un certain nombre de réactions. La Fondation pour le logiciel libre n'a pas donné de détails concernant la démission de Richard Stallman et on va éviter de réagir à chaud, mais nous publierons une réaction sur notre site. Et en attendant, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à consulter l'article du Monde publié aujourd'hui qui relate l'affaire avec les extraits d'échanges, les articles de presse américains et la façon dont ils ont relayé l'information. Donc c'est sur le site du monde.fr. Je n'ai pas en tête le titre de l'article, mais je crois que ça fait la une. En tout cas, c'est sur la page d'accueil du Monde. Donc voilà, nous ferons une réaction écrite sur le site de l'April et je vous en parlerai sans doute la semaine prochaine. Alors, je regarde le temps, donc il reste encore quelques minutes pour des annonces. Alors, d'abord, Paris Open Source Summit se déroule à Paris le 10 et 11 décembre 2019, enfin plus précisément à Aubervilliers, au Doc Pullman. Donc l'appel à conférences est ouvert, donc vous pouvez proposer des conférences pour cette édition donc, de Paris Open Source 2019, 10 et 11 décembre. Alors le 10 décembre étant un mardi, il est fort possible que nous diffusions en direct l'émission Libre à vous depuis Paris Open Source Summit. Nous vous confirmerons ça rapidement. Toujours dans les appels à conférences, il y a le Capitole du Libre qui se déroule à Toulouse les 16 et 17 novembre. Et ben, l'appel à proposition de conférences et de stands est également ouvert jusqu'au 6 octobre 2019. J'en profite pour rappeler que le même week-end, le 16 et 17 novembre, il y a à Paris l'Ubuntu Party. Donc bientôt, il y aura aussi l'appel à proposition de conférences et de stands. En ce moment se déroule également la fête des possibles du 14 donc, au 29 septembre. Alors c'est des organisations de la transition, donc des centaines de rendez-vous sont prévus en France pour rendre visibles des initiatives locales qui embellissent la société et construisent un avenir plus durable et solidaire. Donc le mot d'ordre de cette fête c'est possible. Donc c'est possible de manger bio et à moindre coût, c'est possible de se déplacer au quotidien sans polluer, c'est possible d'utiliser les logiciels libres. Donc évidemment il y a des événements de sensibilisation aux logiciels libres qui sont organisés. Le site c'est fete-des-possibles.org. À Nantes, cette semaine, se déroulent les rencontres régionales du logiciel libre, donc le 19 septembre. Donc, ces rencontres s'adressent aussi bien aux services informatiques qu'aux services métiers, notamment donc des collectivités, qui trouveront des réponses à leurs problématiques techniques et besoins fonctionnels. Donc, le site, c'est sur alliance-libre.org, qui est un regroupement d'entreprises du logiciel libre sur la région nantaise. Donc, ça se passe le 19 septembre à Nantes. Alors, cette semaine encore, eh bien, jeudi soir, il y a la soirée de contribution au libre à la FPH à Paris, dans le 11e. Et c'est également la réunion du groupe de travail sensibilisation dans le cadre de cette soirée de contribution au libre. Donc, c'est à partir de 19h30 à la FPH, dans le 11e. Et le même soir, à Montpellier, il y a un apéro April qui est organisé par Montpel Libre. Je précise d'ailleurs que Montpel Libre, qui est un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de la région de Montpellier, utilisatrices de logiciels libres de Montpellier, seront nos invités pour une interview téléphonique la semaine prochaine, donc dans l'émission du 24 septembre. Alors évidemment, tous ces événements sont annoncés sur le site de l'April, april.org, et également sur le site de l'agenda du Libre. On m'a signalé donc sur le salon web la semaine québécoise de l'informatique libre, donc dans la région de Montréal, du 21 au 29 septembre 2019. Donc pareil, le site, les informations sont sur le site de l'April. Donc ça dure plus d'une semaine avec des événements de sensibilisation au logiciel libre donc autour de Montréal. Et c'est organisé par l'association qui s'appelle Facile, qui sont des camarades de un petit peu comme l'April en France. Alors, est-ce qu'il y a d'autres annonces ? Oui, je vais en faire une petite rapide. Alors, je me mets simplement sur la bonne page pour ne pas me tromper. Elle est où ? Voilà. Association, si vous voulez tester un logiciel libre pour faciliter la valorisation du bénévolat, eh bien, a été lancé il y a quelques jours, Bénévalibre, donc un logiciel libre destiné à faciliter la valorisation du bénévolat dans les associations, avec notamment à l'initiative le CRAGEP, donc Comité Régional des Associations de Jeunesse Éducation Populaire de Bourgogne-Franche-Comté, avec le soutien de la région Bourgogne-Franche-Comté, de la Fondation du Crédit Coopératif, avec les conseils d'appui technique de Framasoft et de l'April. Le développement a été confié à une entreprise du logiciel libre du Nord qui s'appelle CLIS21. Donc le site web c'est benivalibre.org et nous aurons la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, une interview donc de Laurent Costi qui a piloté ce projet donc dans l'émission du 24 septembre 2019. Donc je crois que j'ai fait le tour des annonces. Si vous pensez que j'en ai oublié, ben elles sont sur le site agendadulibre.org. Alors je vérifie sur le salon web si on me signale quelque chose. Non, a priori. Ah oui, on me signale simplement que l'article du Monde, le titre de l'article du Monde dont je parlais tout à l'heure, c'est Richard Stallman, précurseur du logiciel libre, démissionne du MIT et de la Free Software Foundation, donc de la Fondation pour le logiciel libre en bon français. Alors, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Marie-Odile Morandi, Adèle Chasson, Frédéric Bordage, Étienne Gonu, Jean-Christophe Becquet. Je remercie également Isabella Vanni qui a assuré la régie ce matin lors de l'enregistrement du sujet sur l'obsolescence programmée. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio, causecommune.fm. Évidemment, n'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse courriel libreavous@april.org. Libre à vous, tout attaché. Nous vous remercions très sincèrement d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. La prochaine émission aura lieu en direct, mardi 24 septembre 2019 à 15h30. Et ce coup-ci, ce sera totalement en direct. Notre sujet principal portera sur OpenStreetMap, le projet de cartographie du monde de manière libre et coopérative. Donc c'est la deuxième émission consacrée à ce sujet-là. N'hésitez pas à nous envoyer des questions avant l'émission, que ce soit par courriel, sur les réseaux sociaux, sur le salon web de l'émission, par tous les moyens que vous voulez. Et Christian Kess, qui sera notre invité pour parler d'OpenStreetMap, y répondra avec plaisir. Nous vous souhaitons de passer une très belle fin de journée. On se retrouve donc en direct mardi 24 septembre. Et d'ici là, portez-vous bien.